Chers frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la phase finale de la confrontation entre le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, les versets 38 à 40, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu », déclare la Bible. Savez-vous que ce miracle qui a renouvelé la foi chancelante des Israélites a endurci le cœur incrédule de certains commentateurs? On est allé jusqu'à suggérer qu'Élie aurait versé sur l'autel du pétrole trouvé à proximité et qu'à l'aide d'une lentille grossissante, il aurait concentré les rayons du soleil pour allumer le feu. Vous voyez, l'incrédulité de l'homme ne craint pas le ridicule. Notons en premier lieu le petit mot qui introduit le miracle divin « et ». Et le feu de l'Éternel tomba. Et figurant à juste titre dans plusieurs versions. Dans la grammaire française, on l'appelle une conjonction de coordination, c'est-à-dire un mot qui sert à unir deux mots ou deux groupes de mots en établissant entre eux un lien logique. Il y a donc un lien logique entre ce qui va suivre, le feu de l'Éternel tomba, et ce qui précède, c'est-à-dire toute la préparation de l'Holocauste. Mes amis, le feu de l'Éternel ne tombe que lorsque l'autel de l'Éternel est rétabli dans la vision de l'unité du peuple de Dieu. Lorsque le fossé est creusé autour de l'autel, lorsque le bois est arrangé sur l'autel, lorsque la victime est coupée par morceaux, sacrifiée, lorsque l'eau est versée en abondance sur l'Holocauste, et lorsque la prière monte vers Dieu, ardente, fervente et pure, avec comme seul objectif la gloire de Dieu et son triomphe sur les âmes. Sans revenir en détail sur le contenu de mes méditations précédentes, tout cela nous parle en type et prophétiquement de la croix, du sacrifice de Christ et de ses conséquences multiples dans la vie de l'Église en général et dans celle du croyant en particulier. L'Église doit maintenir jusqu'au bout le fondement sur lequel elle a été bâtie, à savoir le sacrifice de Christ. Paul écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 et 11. À cette même église de Corinthe, l'apôtre rappelle « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Chapitre 2, verset 2. Et aux Galates, il déclare « pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Les croyants de l'église d'Éphèse devaient se souvenir constamment qu'ils avaient été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est ce que Paul leur écrit au chapitre 2, verset 20 de sa lettre. Nous tous aussi, nous devons rester établis sur le fondement divin, à savoir le sacrifice et la personne de Christ. L'autel doit être dressé, si nécessaire, être rétabli, et la victime doit être disposée sur l'autel. Vous comprenez l'image. Traduit devant les autorités religieuses de Jérusalem, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a déclaré « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et plus tard, il écrit dans sa première lettre « Approchez-vous de lui, donc de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 6. Lorsque l'apôtre Jean a eu la vision de la nouvelle Jérusalem, l'épouse, la femme de l'agneau, ainsi que lui précise l'ange, donc la cité épouse, puisqu'elle est à la fois la femme et la ville, eh bien, Jean en a contemplé la muraille et les fondements. Il écrit « La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Apocalypse, chapitre 21, verset 14. Nous sommes là dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, dans l'accomplissement du plan divin. Nous sommes à une fin, ou plutôt à un commencement qui sera éternel. Et nous remarquons que Dieu n'aura pas modifié les bases fondamentales de la rédemption. Jusqu'au bout, l'évangile sera le même évangile et les fondements ne céderont pas la place à d'autres fondements. Si la génération actuelle de croyants veut voir le feu de l'Éternel tomber, elle doit apprendre ou réapprendre la grande leçon du Mont Carmel. Beaucoup d'églises aujourd'hui doivent rétablir l'autel de l'Éternel. Dieu cherche des prédicateurs qui n'auront pas honte de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, des hommes qui ne craindront pas de dénoncer le péché dans les vies, de prononcer les mots repentance, conversion, des hommes qui accepteront de porter l'opprobre de Christ en prêchant son sacrifice et la valeur expiatoire de son sang, lui, l'agneau de Dieu. Des hommes qui renonceront aux approbations populaire, aux applaudissements, au vedettariat, à la célébrité, et qui, selon l'ordre du Maître, renonceront à eux-mêmes et se chargeront de leur croix. La croix n'est pas la honte du chrétien, c'est sa gloire. Elle n'est pas un bijou sanctifié, je mets le mot sanctifié entre guillemets, autour du cou, mais elle est la réalité du crucifiement de la chair et du renoncement au monde et à la souillure. À quoi sert une croix sur la façade d'un bâtiment religieux si Jésus-Christ crucifié n'est pas le centre du message de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur-docteur et des anciens? S'il n'est pas le fondement concret, pratique, de la vie quotidienne du chrétien. Beaucoup d'églises ont dénaturé l'évangile du Seigneur. Il y avait du temps d'Élie, les faux prophètes de Baal et d'Astarté qui conduisaient le peuple dans l'idolâtrie, et il y a aujourd'hui des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, ainsi que le dénonce Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 13. Pierre écrit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Seconde épître de Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3. Vous me direz, heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Mais la parole de Dieu ne nous présente aucune infidélité, aucune désobéissance, aucune déviation comme étant consolante, rassurante ou inoffensive. Si les freins d'une voiture sont défectueux dans les premiers mètres d'une route descendante, ne vous consolez pas d'être dans les premiers mètres. Vous allez descendre de plus en plus vite et de plus en plus loin vers la catastrophe. Les églises qui n'entendent pas aujourd'hui le son de la trompette de Dieu, la trompette de Dieu les avertissant et les sommant de revenir vers le Seigneur, de s'humilier, de se purifier, ces églises-là offriront bientôt le visage repoussant de la corruption et de l'abomination de leurs membres et de leurs dirigeants. Du temps du roi Josias, je cite la parole de Dieu, « Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et il dit, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Second livre des rois, chapitre 22, les versets 8 à 10. Je vais poursuivre cette lecture, mais dites-moi, mes amis, avant ce moment-là, où en était le peuple de Dieu? On avait perdu la parole de Dieu dans la maison même de l'Éternel. Où en était donc la royauté? Sur quelle base spirituelle les rois gouvernaient-ils? On ne le sait que trop bien, hélas. Où en était la sacrificature, censé régler la vie spirituelle du peuple d'après la loi de Dieu? Et où en était le peuple lui-même? Eh bien, il suffit de lire les pages précédentes de votre Bible, des pages extrêmement sombres, pour découvrir jusqu'où l'on peut descendre lorsque l'on perd les bases et que l'on renverse l'autel. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, poursuit la parole de Dieu, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre aux sacrificateurs Hilkija, à Achikam, à Akbor, à Shaphan et à Azalia, serviteurs du roi, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Second livre des Rois, chapitre 22, les versets 11 à 13. Je conseille à mes auditeurs de lire la suite du récit qui nous convainc de rétablir l'autel de l'Éternel et d'y offrir l'Holocauste. Des pasteurs et des églises ont travesti la merveilleuse grâce de Dieu. Jude parle d'infiltration pernicieuse au sein de l'Église de Jésus-Christ. « Il s'est glissé parmi vous certains hommes, écrit-il, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Épître de Jude, verset 4. Remarquez bien que Jude ne dénonce pas ici un mal dans le monde, mais au sein même de l'Église. « Il s'est glissé parmi vous, » précise-t-il. Il se berce d'illusions, ceux et celles qui pensent faire tomber le feu de l'Éternel sur un autel démoli, un autel sans victime immolée, un autel autour duquel aucun fossé n'a été creusé, et sur un mont Carmel où l'on n'entend aucune prière ardente montée vers le trône de Dieu. Oui, le jour de la Pentecôte, le feu de l'Éternel est tombé. Et vous savez pourquoi ? Les conditions étaient remplies pour recevoir la puissante bénédiction divine. L'autel avait été construit solidement dans les cœurs par Christ lui-même et la réalité du sacrifice expiatoire était bien au centre de leur foi. Jésus avait ouvert l'esprit des deux disciples allant vers Emmaüs et des autres un peu plus tard pour qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils sachent et qu'ils croient que le Christ devait souffrir la croix. Le fossé avait été creusé et accepté par les disciples. Ils avaient tout quitté pour suivre le Maître. Et Jésus leur dit un jour, « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. » Luc chapitre 2, verset 28. Et encore, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Évangile de Jean chapitre 15, les versets 18 et 19. Quant à la prière avant le feu, Jésus avait donné à ses disciples des directives précises. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc chapitre 24, verset 49. Juste avant l'ascension de Jésus, Les disciples retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc chapitre 24, les versets 52 et 53. Et le livre des Actes des Apôtres précise « Alors ils retournèrent à Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Actes chapitre 1er, les versets 12 à 14. Et vous savez quoi? Le feu de l'Éternel tomba. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, les versets 1 à 4. Alors, au bruit qui a eu lieu, une foule s'est assemblée. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché l'Évangile, et 3000 personnes ont proclamé que Jésus-Christ est Seigneur. Ils se sont repentis et ils ont été baptisés. Quand la Bible nous dit « Et le feu de l'Éternel tomba », c'est tout cela qui est contenu dans ce petit mot de deux lettres dans notre langue française. Il contient à lui seul toutes les conditions requises par Dieu et remplies par l'homme pour que la bénédiction divine vienne avec une grande puissance et avec une impressionnante efficacité. Ce qui s'est passé ensuite au Carmel relève de la toute-puissance divine. Le feu consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Notre Dieu n'est-il pas un feu dévorant, ainsi que le déclare l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 29 ? La démonstration de la puissance du Seigneur fut extrêmement convaincante. Le miracle est irréfutable. Tout est brûlé, même les matériaux incombustibles, la terre et les pierres. Et l'eau est totalement absorbée. Le peuple est alors tombé sur sa face, confessant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est un cri d'adoration arraché au cœur d'un peuple stupéfait et courbé sous la puissance de Dieu. Comment ne pas reconnaître la grandeur de l'Éternel? Dans cette période-là, c'est ici l'un des moments les plus sublimes de l'histoire d'Israël. Alors, il n'est pas question de spiritualiser un fait historique incontestable. Ce qui s'est passé au Carmel n'est pas une image prophétique, une parabole, un songe, mais c'est bien un fait réel. Cependant, je voudrais encourager maintenant chacun de vous. Quand le feu de l'esprit tombe sur une vie, un foyer, une église, une nation même, ce feu est irrésistible. Il est capable de tout dévorer. Il triomphe des cœurs les plus durs, semblables à de la pierre. Il rompt les liens les plus forts. Il brise le pouvoir des passions les plus dominatrices et les plus avilissantes. Il affranchit du péché le plus abject. Et comme le feu absorba l'eau du fossé, le feu de l'esprit absorbe ce qui est contre nature, ce qui est opposé à la nature de Dieu, à son caractère, à son essence divine, à ses lois immuables pour la vie sociale, pour la vie professionnelle, pour la vie familiale, pour la vie sentimentale. L'espoir de l'Europe, l'espoir de notre pays, réside dans la venue du feu divin. Où sont les cœurs qui en sont pleinement persuadés et qui vont prendre le chemin pour que se manifeste la toute-puissance divine capable de ramener le plus grand nombre d'âmes possible au Seigneur, leur Dieu. Je termine avec le sort réservé au prophète de Baal. Élie profite du saisissement qui s'est emparé du peuple et du roi pour appliquer la loi du royaume de Dieu à ses prêtres idolâtres coupables d'un très grand péché. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 40. Le feu avait tout consumé sur l'autel et autour de l'autel. Il fallait maintenant que Dieu consume dans le cœur du peuple tout ce qui déplaisait à ses yeux. Et c'est pourquoi Élie prêche un message de consécration totale et demande l'exécution des faux prophètes. Au fond, il se borne à appliquer la loi divine qui exigeait la mort des visionnaires détournant le peuple vers l'idolâtrie. Certains diront « quelle mesure extrême !» Mais que penseriez-vous si un chirurgien, en découvrant une tumeur maligne dont les cellules prolifèrent à grande vitesse dans l'abdomen d'une personne, lui disait « je pense que nous ferions bien d'en enlever une partie ». Ou bien « j'aimerais me contenter d'une opération minimale ». Un bon chirurgien face à cette tumeur mortelle doit dire « il faut que nous extirpions toutes les cellules malignes et que nous traitions les organes périphériques qui ont peut-être été touchés ». Mes amis, ce n'est pas une mesure extrême, c'est seulement une décision sage et nécessaire. Les prophètes de Baal étaient comme une tumeur maligne au sein du peuple d'Israël. Ils étaient immoraux, hostiles, opposés à Dieu. Élie savait qu'il devait extirper toutes les traces d'une telle menace impie. Y a-t-il un prophète de Baal dans votre cœur? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Un péché secret? Une mauvaise habitude? Une mauvaise compagnie? Un refus de pardon? Une jalousie persistante? Et je ne sais quoi d'autre encore, il y avait 450 prophètes de Baal. Eh bien, égorgez ce prophète dès maintenant. Après m'avoir entendu, mettez-vous à l'œuvre. Peut-être aurez-vous une lettre à écrire, un coup de téléphone à passer, un mauvais livre à brûler, des CD à détruire. On a coutume de dire qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. La réforme en profondeur était maintenant possible pour Israël à cause du miracle divin. Mais qu'en serait-il le lendemain? Quand l'Esprit de Dieu nous convainc, quand il nous conduit à la purification de nos cœurs, à des mises en ordre, à des réparations, à des séparations, n'attendons pas pour lui obéir. Tout retard, toute obéissance différée peut s'avérer extrêmement dangereuse. Et c'est pourquoi la Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen.